Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Comme toujours, dans cette émission, deux sujets vont être mis sur la table par nos décrypteurs. Aujourd'hui, je reçois Serge Mauck, prêtre diocésain et dominicain, ainsi que Christopher Hinks, journaliste chez Cato Bell et Dimanche. Bonjour messieurs, comment est-ce que vous allez avec le retour du printemps ?
Nous sommes tout joyeux.
Je confirme, tout joyeux, c'est très agréable et l'ambiance dans le studio est très bonne.
Et on vient seulement de commencer. Alors, je vous propose de faire le sommaire de cette émission. Deux sujets donc, comme je l'ai dit. Le premier concerne la Russie et la réélection de Vladimir Poutine avec 87% des suffrages en sa faveur. On verra que ce sixième mandat pour le président russe peut impliquer ce qu'il peut impliquer pour le reste du monde dont nous faisons partie. Et puis en seconde partie d'émission, nous aurons un sujet plus léger qui nous emmènera tout d'abord à Bruxelles où le cinéma Nova a pu rouvrir ses portes. Et puis nous partirons à l'international avec Ring Twice, la plateforme qui vous permet de trouver quelqu'un pour vous donner un coup de main près de chez vous. Le point commun entre les deux, le fait que cela résulte directement du soutien que les citoyens décident de s'apporter les uns les autres. Et puis enfin, nous passerons à vos Zooms avant d'accueillir Pierre Granier pour la présentation du journal Dimanche de la semaine. Alors dites-nous en deux mots de quoi vont parler vos Zooms.
Mon Zoom parlera de minerais stratégiques.
Et mon Zoom parlera de musique.
C'est très bien. Vous êtes très efficace sur les deux mots. Merci. Alors, Vladimir Poutine a été réélu donc le week-end dernier avec presque, je disais 87%, mais c'est presque 88% des votes en sa faveur. C'est évidemment pas une surprise, puisque l'on sait que l'opposition est muselée et que les autres candidats sur les bulletins de vote sont tous approuvés par le pouvoir en place. Le taux de participation est lui aussi record, puisque près de 75% des Russes ont exprimé leur voix. Dans son discours de victoire, Poutine a remercié les personnes qui ont voté et permis de créer les conditions d'une consolidation politique interne. Il a également promis de tenir tête à tous les adversaires de la Russie et a mentionné la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Il faisait référence à un possible conflit direct entre la Russie et l'OTAN, qui serait pour lui l'ultime étape avant une troisième guerre mondiale. Et je le cite quand il dit qu'il pense que pratiquement personne ne veut cela. Avant d'imaginer comment l'OTAN pourrait entrer en conflit avec la Russie, nous devons nous poser la question de la suite du conflit en Ukraine. Ça fait 2 ans maintenant que Poutine a envoyé ses troupes pour envahir le pays et on peut parfois avoir l'impression que c'est un conflit sans fin. Alors selon vous, est-ce que l'Ukraine a encore des chances de s'en sortir victorieuse de ce conflit ?
Bien malin qui pourrait le dire aujourd'hui, hein, ce moment, ce jour de mars 2024. Ce qui est clair, donc, le conflit est enlisé déjà depuis quelques mois. Il y a parfois des petites avancées d'un camp ou de l'autre sur le terrain. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que l'Ukraine ne peut pas l'emporter si elle ne reçoit pas le soutien suffisant en armement militaire, en logistique, en moyens de renseignement de la part, évidemment, essentiellement des Occidentaux, des alliés, hein, donc des membres de l'OTAN. On sait qu'aux États-Unis, c'est très compliqué pour le moment, pour le président Joe Biden qui voudrait développer une aide substantielle. Il n'a réussi à débloquer que, entre guillemets, 5-6 milliards pour le moment. Et si le candidat Trump devait être élu à la fin de l'année, il y a un risque que cette aide américaine directe à l'Ukraine s'amenuise encore. Du côté de l'Union européenne, là aussi, il y a des retards qui ont été pris, beaucoup de promesses hein, de soutenir l'Ukraine, mais c'est clair que ça ne suit pas suffisamment rapidement. Les stocks sont épuisés, je dirais, au niveau de l'industrie militaire européenne. On discute, peut-être qu'il faut commander les armements ailleurs, mais voilà, sur place, l'armée ukrainienne est à court de munitions. Donc effectivement, on ne sait pas à l'heure actuelle si l'Ukraine pourrait encore l'emporter, mais certainement pas dans les conditions actuelles. Et là, c'est vraiment un choix politique à faire, et bien sûr avec des implications économiques, de la part de l'Union européenne, mais plus largement de l'OTAN, d'y aller vraiment plus fort ou pas.
On reviendra sur cette aide que l'OTAN et l'Europe apportent à l'Ukraine. Et donc pour vous, Serge, est-ce que l'Ukraine pourrait sortir victorieuse de ce conflit ?
Je n'en sais strictement rien. Je crois qu'il faudrait être, spécialiste militaire et spécialiste de l'histoire politique de cette partie de l'Europe pour pouvoir répondre à la question. Je crois que c'est une complexité inouïe parce que à la fois c'est une c'est un conflit que l'on ressent bloc contre bloc. En même temps, ce sont c'est un conflit entre Ukrainiens et Russes, pour autant que je le comprenne correctement, entre des cousins germains, des gens qui ont été extrêmement proches. Et donc, je crois que la réponse va aussi dépendre de l'évolution politique interne de ces deux pays. Pour le moment, on voit cette galvanisation apparente du peuple russe derrière Poutine. Alors, je crois qu'à la fois, il y a dans cette élection une grande farce. En même temps, quand on nous dit qu'il y a des parts importantes de population avec des gens âgés, des gens assistés, etc., qui soutiennent Poutine, moi je le crois. Je crois que nous avons ici aussi en Belgique, parfois dans certaines villes ou dans certains quartiers, en tout cas historiquement, des pouvoirs quasiment despotiques, de satrapes, qui sont soutenu par une population qui en retire un certain nombre d'avantages. Donc je crois que Poutine ne mérite pas ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Il faut faire la part des choses. Ceci dit, il reprend le flambeau. Je ne suis absolument pas historien, mais j'essaye d'observer attentivement l'actualité et de la décrypter au jour le jour, mais s'inscrit dans une longue tradition expansionniste russe. Quand on se souvient que aussi bien le régime des tsars qui ne faisait que œuvrer à l'augmentation et au développement du territoire russe que bien évidemment le pouvoir communiste avec son Comecon, etc. à l'époque, il y a donc une longue tradition dans laquelle Poutine s'inscrit. Alors, par rapport à cela, il y a notre lecture des événements de l'Ukraine qui nous paraît sympathique. Elle nous paraît sympathique parce que le pouvoir actuel en Ukraine est justement un pouvoir qui s'est inscrit en opposition par rapport à tous les souverains de pacotille que les Russes pouvaient installer à gauche ou à droite. Mais je dirais c'est sous bénéfice d'inventaire. Et comment cette population ukrainienne va parvenir à soutenir cela? Parce qu'on a l'impression d'un pays qui, à certains égards, fonctionne pour certaines de ses parties quasiment normalement, quand on voit certaines images, et en même temps, on a des guerres de tranchées qui nous rappellent presque celles de l'Isère il y a un siècle. Donc il y a là toute une série de paradoxes. Alors moi, à qui je pense, c'est évidemment à ces États qui sont membres de l'OTAN, et membres avant tout de l'Union européenne, qui nous ont rejoints dans cette histoire commune de l'Union européenne, donc les États baltes, etc., qui sont en première ligne. Et je crois que nous devons nous mettre à leur place aussi, et pour nous éclairer. Je lisais dans La Libre ce matin l'interview de la première ministre estonienne, et qui criait, disons, dans le sens de la vigilance et qui criait pour demander le soutien de l'Union européenne parce que ils ont dans leur population une minorité russe et nous savons qu'il y a derrière ce rêve de grande Russie ou de pan-Russie ou de pan-glossie de tous ceux qui parlent russe, il y a quelque chose d'expansionniste. Alors, en disant cela, je donne quelques éléments de réflexion sans donner une réponse synthétique que je suis d'ailleurs radicalement incapable de donner.
Voilà, on a plein de pistes de réflexion juste avec une réponse de Serge. C'est génial. Merci. Alors j'aimerais revenir sur ce que Christophe a dit par rapport à l'Europe et l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine financièrement et avec des armes. Certains pays ont d'ailleurs accéléré leur rythme de production à la demande de l'OTAN et de l'Union européenne pour pouvoir continuer de les aider. Mais on ne pourra pas faire ça éternellement, surtout si la menace, elle vient peser directement sur nous.
Alors, en fait, je ne crois pas qu'il faille choisir. Enfin, Mais merci à Serge pour les pistes de réflexion. Je voulais rebondir sur l'une ou l'autre chose que tu as dit, Serge. Mais donc, par rapport à ça, effectivement, je crois qu'il ne faut pas choisir justement entre soutenir l'Ukraine et soutenir, protéger les pays de l'OTAN, nous protéger nous-mêmes. Justement, je lisais pour rebondir aussi sur le même article que j'ai lu de Kaja Kallas. La première ministre estonienne, pardon.
Estonienne.
Merci. Mais donc, c'est effectivement l'argument des pays baltes, de l'Ukraine aussi, évidemment, ou de pays comme la Pologne, qui sont des ex-républiques soviétiques et pour lesquels, la menace russe est plus palpable, sans doute, que pour nous, qui vivons en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, c'est un peu le discours. Si l'Ukraine perd, c'est là qu'il y a un risque pour l'Union européenne et pour les pays de l'OTAN. Donc peut-être qu'effectivement, défendre l'Ukraine, permettre à l'Ukraine non seulement de tenir, mais de repousser l'envahisseur russe, c'est déjà protéger l'OTAN. Et je pense que Poutine le comprend bien. Alors, je vais prendre véritablement le point de vue ici des alliés ou de ces pays tels que l'Ukraine ou les pays baltes. Mais je pense qu'il y a véritablement une stratégie de Vladimir Poutine, et Serge a parlé de l'expansionnisme russe, il y a une volonté de déstabiliser l'OTAN, et même en fait de détruire l'OTAN en tant qu'institution, parce que effectivement, l'OTAN est la seule institution internationale, avec les États-Unis notamment, qui est capable de lui mettre des bâtons dans les roues. Je pense qu'il y a, en Europe occidentale particulièrement, il faut vraiment, et c'est en train de se faire tout doucement, qu'on prenne conscience qu'il y a un réel risque que Vladimir Poutine, s'il emporte en Ukraine, s'attaque à des pays de l'OTAN, sans doute pas dans le but d'envahir toute l'Europe ou d'annexer toute l'Europe, mais de monter les uns contre les autres les pays de l'Union européenne et les pays de l'OTAN. Il pourrait être tenté dans les prochaines années, après un conflit ukrainien où il aurait été victorieux, de titiller un petit peu, de tester, d'attaquer de différentes façons, soit un pays balte, soit pénétrer une frontière, soit par des cyberattaques, soit un mélange de différentes choses, pour voir comment on réagit. Si l'OTAN, à ce moment-là, se montre faible, s'il continue d'avoir ce discours qu'on a entendu au tout début de la guerre en Ukraine, on veut éviter à tout prix la désescalade. Stratégiquement, moi je suis pas non plus un expert en défense stratégique, en géostratégie militaire, etc. Mais beaucoup d'experts le disent, il ne faut surtout pas dire à Poutine qu'on ne va pas envoyer de troupes en Ukraine, qu'on ne va jamais vouloir attaquer la Russie sur son territoire, parce que ça, pour Poutine, c'est un discours de faiblesse. Et lui, il compte là-dessus. Au contraire, même si à un niveau stratégique, il faut qu'Olaf Scholz arrête de dire qu'on ne va de toute façon rien faire, qu'il n'y a pas d'accord. Et même si on ne s'entend pas, il faut montrer, dire à Poutine que si la Russie met un orteil dans un État membre de l'Union européenne et de l'OTAN, eh bien, ce sera la guerre. Il faut utiliser le mot. C'est le seul langage qui comprend.
Serge ?
Il faut se remarquer aussi que nous sommes assez démunis par rapport aux informations dont on dispose réellement pour permettre de se faire une idée. L'Europe, clairement, ne parle pas d'une seule voix. Donc, quelque part, Poutine a déjà gagné par rapport au différentiel de réaction qu'il peut y avoir dans les pays européens. On voit tout à coup Macron qui part en guerre, on a des Allemands plutôt timorés, on a un Premier ministre hongrois et un régime hongrois qui est plutôt en alliance. Et donc la zizanie, elle est déjà un peu partout. J'étais dans un couvent dominicain il y a quelques jours, où on a l'un ou l'autre frère d'origine africaine, et on disait, il faut faire, soyons prudents quand on parle du conflit ukrainien, parce qu'un certain nombre de pays africains sont très clairement pro-Poutine. Donc il y a sur le plan de, de la politique internationale énormément de dissonances. Alors, la question qui se pose aussi, nous sommes ici dans le cadre de Catobel et de RCF, c'est la position de la diplomatie vaticane. Parce que moi, je serais véritablement intéressé. Je suis allé à une célébration avec invité par les nonces apostoliques, etc. Donc tout ça est magnifique. Mais ce serait bien de savoir ce que pense réellement Rome, parce qu'on a tout d'un coup notre pape François qui sort, j'allais dire, des tranchées, si ce n'était pas de l'humour noir, et qui propose le drapeau blanc et une sorte de trêve avec la Russie. Pas trop grand monde ne comprend. Et je ne crois pas que ce soit encore beaucoup plus clair aujourd'hui. Donc, il y a véritablement là un besoin important de clarification.
Justement, pour revenir à ce drapeau blanc du pape, il a donc appelé à des négociations entre les deux pays et appelé l'Ukraine à avoir le courage des négociations, tout en encourageant aussi la désignation d'un médiateur parmi les pays qui se sont proposés, comme la Turquie. Et ça a provoqué, on l'imagine, forcément la colère des Ukrainiens qui n'ont pas hésité à le faire savoir. Est-ce que vous comprenez cette colère ?
Oui, je la comprends. Alors Serge a raison, hein. Quelles sont les intentions du Vatican ? On sait qu'en tout cas, depuis très longtemps, la diplomatie vaticane a une position pacifique. Et certains experts disent que depuis quelques années, elle est de plus en plus pacifiste, c'est-à-dire éviter la guerre à tout prix, même s'il y a toujours un peu ce concept de guerre juste, hein, qui existe, c'est-à-dire qu'un peuple, évidemment, a le droit de se défendre quand il est agressé, mais que, voilà, essayer de tout faire pour éviter les morts, inutiles, et ça, bon, voilà, en tant que chrétien et démocrate, enfin bref, je suis vraiment d'accord. Et on se demande si le pape, la diplomatie du pape, pourrait avoir une autre position que celle-là. Alors, il faut quand même dire, j'ai trouvé intéressant que le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État, hein, du pape, donc un peu son premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, a précisé que justement le drapeau blanc ne voulait pas dire une reddition, parce que c'est ça, comme ça que le message avait aussi été compris de la part des Ukrainiens notamment, et d'autres dirigeants, hein, donc ont eu beau jeu de dire, mais non, c'est scandaleux. Parolin a précisé que non, effectivement, on appelle à des négociations, mais qui n'est possible que s'il y a un cessez-le-feu. Et celui qui doit cesser le feu, avant tout, c'est l'agresseur. Donc voilà, une petite rectification par rapport à ça.
Je partage tout à fait l'analyse de Christophe. Je crois qu'il faut comprendre l'incompréhension des Ukrainiens, parce que on a quand même, il y a quand même, si le mot ne convient pas tout à fait dans ce contexte-là, une géopolitique religieuse aussi, quelque part, entre les orthodoxes et les catholiques, etc., et toutes les nuances qu'il peut y avoir dans ces pays, avec quand même une église orthodoxe russe qui s'est très fort alignée sur Poutine. On dirait qu'on en parle un peu moins, mais je crois pas que la situation a tout à fait évolué, alors qu'un pape qui parle de Rome et forcément, puisque l'État du Vatican se trouve au cœur de l'Italie et de l'Union européenne, entendant une voix psychologiquement venant plutôt de l'Ouest qui semble aller au secours des Russes, ça a dû, à mon avis, les blesser beaucoup.
Et il y a aussi le fait, et Serge le disait tout à l'heure, par rapport à un soutien, un monde divisé, hein, pour ou contre la Russie, pour ou contre l'Ukraine, effectivement, la diplomatie vaticane se veut aussi multilatéral, pardon. Donc, ils savent bien à Rome qu'il y a une partie du monde, et donc des chrétiens aussi, en Afrique, c'est assez clair, où il y a plutôt un soutien à la Russie de Vladimir Poutine.
Alors, dernière question rapidement avant de passer à la suite. Poutine a parlé de Troisième Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez que les dirigeants du monde pourraient refaire les mêmes erreurs que par le passé et plonger du coup le monde dans une nouvelle guerre ?
Alors ça dépend quelle erreur. Est-ce qu'on parle d'erreur comme la Première Guerre mondiale ou comme la Deuxième Guerre mondiale ? Moi, je m'explique, le conflit ukrainien me fait plutôt penser à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, où Hitler avait, Munich 1938, des accords avec certains pays, les grandes puissances européennes, pour annexer la Tchécoslovaquie, enfin, je ne sais plus si ça s'appelait comme ça à l'époque, en tout cas Prague, et les Européens ont accepté. Donc, pour moi, quand Vladimir Poutine parle d'un risque de Troisième Guerre mondiale, je vais utiliser, désolé pour l'expression, mais c'est un peu pour foutre les jetons aux Occidentaux, parce qu'ils savent justement à quel point la guerre est inimaginable pour nous. Et c'est cette idée, et voilà, surtout, si vous voulez éviter une Troisième Guerre mondiale, laissez-moi faire ce que je veux en Ukraine et ailleurs. Alors que justement, encore une fois, d'un point de vue stratégique, quelles que soient les intentions, il ne faut pas montrer de faiblesse par rapport à ça. Il ne faut pas qu'on montre qu'on a peur de ça. Et comme l'a dit Serge, voilà, l'Union européenne est divisée à ce sujet-là. Avec les États-Unis, on ne sait pas si le soutien à l'OTAN, la participation à l'OTAN va être aussi massive à l'avenir si Trump devait être réélu. Mais donc, voilà, pour moi, l'erreur, ce serait de laisser penser à Poutine que quoi qu'il fasse, on ne bougera pas au niveau de l'OTAN.
Je ne crois pas à un conflit mondial, en tout cas pas maintenant, même si je ne suis pas devin et que je ne connais pas le dessous des cartes. Mais pour le moment, il faut dire que les Européens et un certain nombre de grandes nations, tout le monde est au balcon et regarde à bonne distance ces Russes et ces pauvres Ukrainiens qui se battent. À partir du moment où le conflit s'exporterait sur le terrain dans des pays de l'Union européenne, je crois qu'il va y avoir une solidarité du projet de l'Union européenne qui va se manifester, et qui va se manifester très fort, parce que on sent quand même que les forces russes sont en nombre plus important que les forces ukrainiennes, mais Poutine ne semble pas avoir non plus les moyens militaires de coloniser toute l'Europe, quoi. Donc il y a une limite à cela. Et sa balance commerciale et l'état de son économie ne sont quand même pas apparemment au top non plus. Donc tout cela est évidemment largement caché, devrait être exploré. Enfin, n'est-il pas un colosse au pied d'argile? La question mérite d'être posée.
On va se poser la question le temps d'une musique et on va un peu aussi alléger l'ambiance du studio pour se changer les idées. Et on vient juste après pour parler du Nova et de Ring Twice.
Ce soir nous rêvons, nous rêvons. On veut faire le bien.
On ne sait pas bien comment faire. Mais faut plus se taire.
Ça n'a l'air de rien.
Mais regardez la misère.
Pour la mettre à terre. Impuissant, plus jamais non.
Il suffit de pas grand chose au fond pour
qu'un puissant fasse des millions.
Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution?
Pourvu qu'on s'aime
et qu'on le sème. Pour que les rêves deviennent révolution.
Qu'on le retienne.
Les gens qui rêvent font des révolutions.
Pour qu'on se lève.
Qu'on se soulève.
Faire de ce chant notre résolution. Et dire sans trêve sur toutes les lèvres.
On pourra lire notre révolution.
Toi, c'est un cri d'amour qui compte pour faire bouger la ronde. Impuissant, puis des millions.
Avec la force du nombre, on fait de rien.
Puissant, puis des sillons.
Pour tracer sur notre route une révolution. Pourvu qu'on s'aime et qu'on le sème. Pour que les rêves deviennent révolution. Faut qu'on l'apprenne.
Notre résolution,
le tir sans trêve
sur toutes les lèvres.
veut qu'on s'aime et qu'on le sème.
Que les rêves deviennent révolution.
Faut qu'on l'apprenne,
qu'on le retienne.
Les gens qui rêvent font des révolutions.
Faut qu'on se lève,
qu'on se soulève.
Faire de ce chant notre résolution.
Le dire sans trêve sur toutes les lèvres.
Pour élire notre révolution.
Résolution.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Et nous sommes de retour dans Décryptage, votre émission de Cato Bell sur RCF. Aujourd'hui avec moi en studio, Christophe Herings, journaliste chez Cato Bell et Dimanche, et Serge Mauque, prêtre diocésain et dominicain. Alors, second sujet de cette émission, et comme je le disais en intro, beaucoup plus léger. Nous allons parler de deux exemples belges d'économie sociale et alternative. Le premier est le cinéma Nova, qui a été racheté par 3000 personnes via la coopérative Supernova, afin de ne pas devoir fermer ce petit cinéma indépendant de la capitale. Et puis, second exemple, Ring Twice, qui est une plateforme qui vous propose de trouver à proximité de chez vous aussi bien quelqu'un pour réparer vos tuyaux que quelqu'un pour promener votre chien. Alors, je vous propose de commencer par le cinéma Nova. Est-ce que vous auriez pu acheter le petit cinéma du coin, si on peut dire ça comme ça, pour le sauver?
Je pense que oui, mais je vais donner la parole à Christophe parce qu'il connaît le cinéma du centre-ville de Bruxelles beaucoup mieux que moi et les besoins. Donc moi, j'ai vu essentiellement une initiative sympathique. Je crois que je suis prêt à acheter une part pour un projet comme celui-là. Mais je crois que ça fait partie de... La démarche fait partie quand même de la recherche d'une diversité culturelle dans le centre de Bruxelles. Alors, il vaut mieux donner la parole à quelqu'un comme Christophe qui y vit maintenant.
J'y vis, mais je crois, Serge, que tu y as vécu aussi. Donc, c'est vraiment une super nouvelle, hein, Supernova, super nouvelle. Donc, Supernova, c'est le nom de la coopérative, hein, c'est le nom que s'est donné la coopérative. Donc, peut-être, il y a une opération qui était lancée, un appel aux dons pour sauver ce cinéma. Donc le bail allait se clôturer ce 31 mars. Pas les moyens de continuer à cause d'une location beaucoup trop chère. Et donc la direction de ce cinéma a décidé de faire un appel aux dons, ce qui a marché. Ils ont récolté plus de 800 000 euros. Ils ont créé aussi donc départ, hein, qui est sur un appel à une épargne publique. Donc, il y a déjà 3 000 coopératrices et coopérateurs qui ont souscrit à départ pour 500 000 euros. Donc, voilà. Et le but est vraiment super. C'est d'offrir un cinéma indépendant, cinéma d'auteur, mais pas seulement. Et donc, sans but commercial. Et donc, avec ce qu'ils ont pu récolter, et ils vont pouvoir donc racheter le cinéma. Cinéma pourrait continuer jusqu'en 2092, ce qui est évidemment une super nouvelle, encore une fois. Mais donc effectivement, l'offre culturelle de ce type de cinéma qui n'est pas le seul, hein, on va pas les nommer aussi. Il y a pas mal de petits cinémas comme ça dans le centre de Bruxelles qui fait d'ailleurs vivre, qui contribue à faire vivre le centre historique de Bruxelles. Mais voilà, à côté de ces grosses machines que sont les blockbusters, dont certains sont très bons aussi, mais de permettre une vie culturelle, permettre à des personnes de visionner des films auxquels ils n'auraient pas accès. Sinon, c'est une très bonne chose. C'est un peu comparable à ce que fait, par exemple, la nouvelle salle de concert, le manège à Namur, qui a ouvert ses portes il y a quelques années. Eh bien, un billet là-bas, ça coûte 20 euros, alors que l'organisation d'un concert dans ces lieux, c'est 40 000 euros. Donc, il y a besoin actuellement de soutien public qui sont toujours insuffisants pour pouvoir assurer que des personnes, lambda entre guillemets, même si le terme n'est pas joli, de pouvoir accéder au plus haut niveau de la culture. Ça fait partie véritablement de la construction de la société, etc. Mais voilà, pour d'autres, centres culturels, que ce soit de concerts ou autres, c'est vraiment... Cette réussite, cette survie du cinéma Nova, ça pourrait faire des émules au niveau culturel en Belgique et ailleurs. C'est vraiment super positif.
Qu'est-ce qu'on entend par émule culturelle ?
Émules, plutôt des émules dans le sens où d'autres, voilà, encore une fois, des salles de concert, des musées
pourrait
ou autres pourraient faire pareil, lancer une coopérative pour pouvoir subvenir à ses besoins.
On parle régulièrement de citoyenneté, ce qui est un terme un peu creux. Alors je crois que dans le cadre, que si on fait le lien entre l'économie sociale d'une part et la citoyenneté, on a une véritable fécondité finalement de pas mal de projets. Donc tu parlais dans la présentation d'un sujet plus léger, je dirais en tout cas d'un sujet plus joyeux, parce que généralement on a affaire dans les nouvelles au quotidien aux fermetures d'un certain nombre de grosses boîtes, une économie qui se transforme très radicalement, ben et qui touche ce qui paraissait presque intouchable, quoi. Une firme comme Van Hool, tout le monde a vu les bus pendant depuis sa naissance circuler, et puis à un moment donné, voilà, c'est une entreprise ayant pignon sur rue dans le pays qui disparaît. Alors, je disais plus joyeux, mais pas forcément plus léger, parce que c'est un secteur relativement important. Savez-vous combien il y a d'équivalents full-time au niveau comme emploi en Belgique dans l'économie sociale ? Je suis allé voir et j'ai été vraiment surpris.
Combien d'équivalents temps plein ?
Combien vous diriez ? Quel pourcentage de la main-d'œuvre
dans l'économie sociale.
Dans l'économie sociale au sens le plus large. Donc tout le personnel utilisé par des associations, des coopératives, etc.
Et on parle de personnes rémunérées ou pas ?
Rémunérées.
Allez, moi je vais lancer 10%, mais en étant tout à fait ignorant de...
Oui, mais c'est pas ce mal. C'est.
Aucune idée.
400 000 personnes, 400 000 équivalents full-time. Donc c'est vraiment énorme. Et ça touche énormément de secteurs et toutes les parties... Et toutes les composantes du pays. Et ça reste stable, avec plutôt une progression. Ce qui veut dire que on a aussi un contrepoint des alternatives à cette économie technocratique et technologique qui régente tout sur le plan international. Ce sont quand même des poches. Des niches qui sont différentes, quoi. Mais si on prend tout le réseau des services aux personnes, par exemple, ben prenons les titres services, mais voilà, c'est une part non négligeable de la vie sociale. Et donc Christophe a développé la dimension culturelle. J'établissais aussi un lien avec en ouvrant une de mes gazettes préférées, La Libre, pour ne pas la citer, je voyais la progression d'une petite société, une petite PME belge, qui a été lancée il y a une dizaine d'années par trois jeunes gars qui sortaient des études. Il se fait que par hasard, j'ai eu l'occasion d'inviter l'un des fondateurs pour un débat sur justement l'économie sociale et les alternatives. Ça s'appelait à ce moment-là « List Minute ». C'était...
Oui. Alors, je me permets de vous couper deux secondes pour dire aux auditeurs, du coup, vous nous parlez de Ring Twice, déjà.
Oui.
Donc voilà,
je glisse sur Ring Twice.
Voilà, exactement. Et j'explique
juste. Ce n'est pas une peau de banane, mais je... Voilà.
C'est une transition en
C'est
douceur.
C'est une transition voilà. en douceur.
J'explique à nos auditeurs où on en est.
Voilà. Et alors, cette société s'appelait « List Minute », elle était belge, elle était toute, toute petite. Mais elle était en progression. Et elle consiste à... On n'est pas tellement loin des titres-services, même si on est dans l'économie, là, dans une société d'économie sociale, mais commerciale, qui rend des services, qui dépannent des tas de gens, notamment pour des petits travaux. Et c'est intéressant de noter qu'ils ont connu un plafonnement après le Covid. Donc, vu l'inflation, vu le changement de certaines habitudes, etc., ils ont connu un repli, mais qui très heureusement s'est rectifié. Et voilà entre-temps, ils ont changé de nom pour que les auditeurs puissent suivre. Ils se sont appelés non plus Ring Twice, mais ils se sont appelés Ils se sont appelés non plus This Minute, mais Ring Twice. Comme ça, je suis revenu et remis tout le monde dans le bon sillon. Et ils sont en train de reprendre une société dans la région lilloise qui a à peu près la même envergure. Ils ont chacun, c'est aussi, le chiffre est aussi intéressant, ils ont aussi 650, ils ont chacun 650 000 clients.
À peu près, oui.
Donc, à peu de choses près. Et donc, l'ensemble fera un marché, entre guillemets, de 1 300 000. Et donc, c'est... J'ai établi justement le lien entre Supernova et ceci, parce que, quelque part, ça participe de la même démarche. Et cela vise, par la solidarité, à rencontrer des besoins qui ne sont pas ressentis comme solvables à première vue. Donc, payer la place de cinéma, payer à certains endroits, dans certaines petites salles, payer la place de concert, on viendra à la musique par après, ou au théâtre, etc. Au prix coûtant, c'est un obstacle pour certaines personnes. De la même façon, payer un prestataire de service au prix du marché pour certains dépannages, quand on a relativement peu de revenus, c'est difficile. Et là, on a véritablement cette notion du bien commun que j'aime beaucoup, qui se déploie finalement dans des univers relativement différents et complémentaires.
Est-ce que vous auriez pu, ou vous avez déjà peut-être, fait appel à des services comme ce que propose Ring Twice et du coup en France Frisbees?
Moi encore jamais, mais justement ça me donne des idées pour un problème de plomberie. non mais très concrètement, voilà, on en parlait aussi dans certains médias il y a quelques jours. Quand on fait appel... Enfin, c'est bête ce que je dis, mais quand on fait appel à un plombier, enfin, avec tout mon respect pour les plombiers, enfin, d'autres prestataires de services, on ne sait pas trop ce que ça va coûter, puis on a des factures imprévues et très élevées, on ne sait pas toujours si on paye le juste prix, etc. Eh bien, justement, des démarches comme celle-là font que, ben, j'ai un souci au concret. Il paraît qu'ils peuvent même aider les gens à mettre des gens en contact avec des prestataires de services qui peuvent vous monter chez vous des meubles IKEA. Bon, là, jusqu'à présent, je m'en sors.
Il y a des gens pour qui c'est très, très compliqué.
Voilà, j'entends bien, Armel. Enfin, je comprends.
Pas moi forcément, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est très compliqué.
Mais voilà, mais donc oui, moi, je n'ai jamais fait appel à ça, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être très utile pour des personnes. J'hésiterai pas à le faire, oui, certainement.
Moi, j'ai fait appel à plusieurs reprises parce que les connaissant un peu pour des dépannages vraiment tous azimuts, notamment parce que j'avais un problème de lien entre mon PC et ma nouvelle imprimante. J'avais un certain nombre d'amis et d'amis plus jeunes qui avaient essayé de me dépanner, mais j'ai fait appel à un informaticien de Ring Twice. Ça s'est extrêmement bien passé, il a trouvé la solution. Vous allez sourire, mais mon vélo électrique avait une fuite à Louvain-la-Neuve et il fallait le conduire jusqu'à Otigny, jusqu'à Provélo pour le réparer. Mais je devais avoir quelqu'un qui le transporte. J'ai fait appel par hasard en me disant, tiens, et en quelques minutes, j'avais plusieurs offres de gars qui ont une camionnette, une remorque, etc. et qui pouvaient faire l'affaire. Donc voilà un certain nombre de besoins qui ne sont pas... Qui ne sont pas payables peut-être si on fait appel à des circuits classiques qui ont eux-mêmes leurs propres contraintes, parce que je suis fils de petits indépendants, donc je reste tout à fait sensible aux difficultés aussi qui sont vécues par les petits indépendants et aux coûts que ça représente, y compris aux plombiers, même si leurs tarifs ne sont pas tout à fait sympathiques, mais d'autre part il y a là une complémentarité et peut-être aussi une façon d'assainir un certain nombre de marchés, parce que le fait d'avoir des services bien rendus et de qualité, ben je crois que c'est un aiguillon qui est positif et qui assainit et qui permet au marché de fonctionner.
Est-ce qu'il y a peut-être l'une ou l'autre petite initiative comme celle dont on vient de parler qui existe ou qui devrait exister et qui sont importantes pour faire tourner notre monde, des initiatives auxquelles vous pouvez penser?
Je crois qu'il y a, il y a énormément de demandes aussi dans le secteur non marchand. Quand on voit l'espace public ou les écoles, etc., à la base, l'évolution du cadre de vie, quoi. Je pense que beaucoup de choses pourraient être refaites. Un décor public ou le décor d'une école qui soit propre, qui soit joyeux, qui soit en bon état, mais je pense que ça fait partie de l'optimisme d'une nation, quoi. Et laisser des choses délabrées parce qu'on n'a pas les moyens ou qu'il n'y a pas les budgets, etc. Je crois qu'il y a, il y a là des niches énormes pour mobiliser positivement des personnes.
Peut-être aussi quelque chose à une piste à exploiter pour les agriculteurs, c'est le cas de le dire, exploiter une piste pour vendre leurs produits dans le cadre d'un circuit court. En tout cas nous qui sommes citadins, enfin je parle de moi, pas de Serge, mais c'est pas toujours évident d'avoir accès à des produits qui viennent directement de la ferme. Donc voilà, j'y pense comme ça.
Alors on va déjà devoir s'arrêter sur ce second sujet. On pourrait, je pense, encore en parler pendant un moment de ces idées de projets citoyens. Et on va faire donc cette petite pause avec Peggy et puis on se retrouve juste après pour vos Zooms. Dear old darkness, I've come home again. Stars, right to where it started. Let me drift away to lonely town. 'Cause for a moment there, for a moment there was you. When you're on
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Et nous revoilà pour cette dernière partie d'émission dans Décryptage, l'émission Cato Bell sur RCF. Je suis aujourd'hui avec Christophe Herings, journaliste chez Cato Bell et Dimanche, et Serge Mauque, prêtre diocésain et dominicain. Il est déjà l'heure de passer au Zoom. Alors, je reprends mes notes de tout à l'heure. Christophe, vous vouliez nous parler de minerais rares.
Oui.
C'est de ça que vous allez nous parler. Et Serge, vous nous parlerez de musique. Christophe, vous commencez ?
Je veux bien commencer, d'autant que je risque de replomber un petit peu l'ambiance.
Non !
Mais je serai rapide. Mais vous savez peut-être, nos auditeurs aussi, que le 19 février dernier, l'Union européenne a signé un accord de coopération, de collaboration avec le Rwanda, qui porte donc justement sur les minerais rares, ce qu'on appelle les minerais stratégiques. Donc, en quoi consiste cet accord ? Eh bien, que le Rwanda puisse fournir, et alors on précise, de manière transparente, d'une façon qui puisse être durable d'un point de vue écologique, donc de fournir à l'Union européenne certains minerais rares, comme je cite, tantale, étain, tungstène, or, niobium, j'avais jamais entendu parler, lithium et autres. Mais il y a quand même un léger souci, que n'ont pas manqué de remarquer des Congolais, des ministres congolais, et également le cardinal Ambongo, qui est archevêque de Kinshasa, qui était en Belgique la semaine dernière, oui, qui s'est fort étonné de cet accord. Pourquoi ? Mais parce que le Rwanda ne produit pas un gramme de ces minerais rares sur son territoire. Ce qui veut dire, parce qu'on parle avec le Rwanda d'extraction, de traitement, etc., mais il n'y a pas de minerais stratégiques au Rwanda. Ça veut dire qu'ils vont les puiser dans l'est du Congo, et on le sait depuis 2013 par des rapports de l'ONU, même si Paul Kagame a toujours nié. On sait que le Rwanda soutient les rebelles du M23 dans l'est du Congo pour justement créer ou perpétuer une situation de désordre pour pouvoir exploiter les mines, pouvoir les transférer au Rwanda et les vendre. Donc moi, je me pose vraiment de sérieuses questions, et pas seulement moi, sur, je dirais, le caractère éthique, tout simplement, de cet accord, qui a quelque chose de scandaleux en soi. Et je cite encore le cardinal Ambongo, il serait tout à fait possible de négocier des minerais rares au Congo aujourd'hui entre les grandes puissances, hein, voilà, concrètement, qui ont besoin de ces minerais, notamment pour la transition énergétique. Mais il est possible, mais aujourd'hui, l'Union européenne, on a l'impression qu'ils entretiennent eux aussi le chaos sur place, comme d'autres, comme la Chine, comme d'autres pays voisins de la RD Congo, pour exploiter ça avec la complicité de groupes armés qui parfois exploitent directement les minerais en faisant travailler des enfants, et on sait les massacres et les déplacements de population que ça implique dans cette région du monde.
Merci Christophe, je vais déjà vous couper pour laisser le temps, un petit peu de temps quand même à Serge pour nous faire son zoom sur la musique.
J'ai proposé la musique parce que j'ai été frappé par un article de Charlotte Messian, qui a dirigé la chorale universitaire naguère, qui a écrit un article dans La Libre cette semaine, ces derniers jours, sur l'état de la formation musicale en Belgique, et sur le fait qu'il n'y avait finalement que 3% des enfants qui participaient finalement à une formation, et que dans un pays où il y a le concours Anne-Elisabeth, eh bien, il y a le paradoxe d'avoir très peu de candidats belges et très peu de jeunes qui sont formés. Et donc ça a attiré mon attention, parce que selon un vieil adage, la musique adoucit les mœurs, et elle fait quand même... Elle est quand même signe, elle est quand même vecteur d'une qualité de vie aussi, et de rapport entre les personnes. Et j'ai fait un lien avec ce que je vis comme curé de paroisse, où à côté d'un conseil paroissial, on a installé, parce qu'on a pris beaucoup d'initiatives dans le domaine artistique et musical dès la fin du Covid, et même en Covid, pour soutenir les artistes. Nous avions une rencontre hier entre les artistes et la paroisse, pour mettre au point, tout à fait ensemble et aussi avec l'association des habitants du quartier, le programme du printemps et de l'été prochain. Et je me suis dit que par rapport à ce désert ou ce territoire en voie de désertification que Charlotte Messian mettait en exergue il y a quelques jours, que des petites initiatives, toutes modestes comme celle-là, contribuent aussi à un vivre ensemble. Et donc, je compense un peu, décidément, aujourd'hui, tout est dans les équilibres. Le côté un peu sérieux du Zoom de Christophe par un côté un peu printanier et prime-sautier.
Voilà,
Merci beaucoup.
Merci Serge.
Merci, on a un bel équilibre dans cette émission, du lourd, du léger. On fait de tout. Alors, il est déjà temps pour nous d'accueillir Pierre Granier, secrétaire de rédaction chez Catobel, pour nous parler du journal Dimanche de la semaine. Dites-nous, Pierre, qu'est-ce que nos auditeurs pourront lire dans le journal de la semaine ?
Bonjour Armel et bonjour à tous. Cette semaine dans Dimanche, on vous parle de gratuité, ou plus exactement, c'est Véronique Perriot qui nous en parle dans le Grand Entretien. Il y a près de 10 ans, cette Française a créé un premier cercle de gratuité dont le principe est très simple. Durant 2 heures, les gens apportent tout ce qui ne leur sert plus et prennent tout ce dont ils ont envie. Des échanges donc totalement gratuits. Pour des raisons pratiques, au départ, explique-t-elle, mais à l'usage, je me suis rendu compte que la gratuité n'était pas seulement pratique, elle crée du commun, de la convivialité, de l'entraide, du partage et de la concorde. De son expérience, Véronique Perriot a constaté 2 choses. Il y a plus de gens qui viennent pour donner, et à partir du moment où l'argent n'est plus en jeu, les gens ne se demandent plus s'ils font une bonne affaire, mais s'ils pourront en faire usage. La gratuité permet donc d'éprouver le sentiment de satiété, conclut-elle. La promouvoir est donc une façon pour cette diplômée de Sciences Po de remettre en cause la logique dominante de notre société de consommation et de faire jaillir, à l'échelle locale, les germes d'un monde nouveau. Ces propos ont été recueillis par Vincent Delcor et sont à lire en pages 2 et 3. Le congrès Mission a marqué l'actualité religieuse belge du week-end passé. Et plutôt qu'un compte-rendu exhaustif de ces 3 jours, Dimanche a recueilli les impressions de Marie de Arène, qui faisait partie de la 30aine de bénévoles qui se sont démenés pour que cette 2e édition soit un succès. Le journal revient aussi sur l'homélie de Mgr Lud Arts, qui avait décliné la mission en 4 verbes, écouter, pratiquer, partager et prier. 4 mots qu'il a accepté d'approfondir. Ces 2 articles signés Vincent Delcor sont à retrouver en page 4. Place maintenant à une étude du Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique, mieux connu sous son acronyme CRISP. Selon celle-ci, les Belges sont de moins en moins intéressés par l'actualité. L'analyse qui porte sur ces 8 dernières années pointe un phénomène d'évitement de l'information que l'on pourrait attribuer à la surabondance des sujets politiques ou liés au Covid et depuis 2023, à la guerre en Ukraine. Toutes les sources d'infos, qu'il s'agisse des bulletins d'infos à la télé, en radio ou des journaux, ont ainsi perdu 1/3 de leur audience au cours de ces 8 dernières années. Un constat qui fait dire à Bernard Kohls, l'auteur de cette étude, que les enjeux en termes de démocratie valent la peine de ne pas laisser perdurer une telle situation. Il faudra donc faire preuve de créativité pour reconquérir l'intérêt des Belges, conclut Angélique Tasio, dont son article à lire en page 5. Enfin, une fois n'est pas coutume, c'est avec l'opinion de la semaine que je vais terminer ce petit tour d'horizon de Dimanche. Elle est signée à 4 mains par Brigitte et Michel Simons, qui fêteront cet été leur noces d'émeraude, à savoir
60, 70
40, 40 années de mariage. Oui. Nous nous marions depuis 40 ans, écrit ainsi ce couple, très investi dans les équipes Notre-Dame, un mouvement chrétien qui les accompagne et les aide dans la grande aventure du mariage. Leur témoignage est à lire en dernière page du journal, juste sous les mots croisés. Voilà, bonne semaine de lecture avec Dimanche.
Merci Pierre, merci Serge, merci Christophe d'être venu aujourd'hui pour décrypter l'actualité avec moi.
Merci Armel.
Merci Armel et merci aux auditeurs.
On se retrouve bientôt pour un nouveau décryptage. Le podcast de celui-ci est déjà disponible sur le site de catobel.be et sur rcf.fr. À bientôt.